La convention annuelle Anacofi, jeudi 28 mars 2024, au Carrousel du Louvre, sur Radio Patrimoine.
Et oui, on vous accompagne aujourd'hui tout au long de la journée de cette convention Anacofi. C'est la 20e, 20 ans et après, voilà le sous-titre de cette convention. Et on accueillera tout à l'heure, bien évidemment, le président de l'Anacofi, David Charlet. Mais deuxième invité du jour, Stéphane Lévy. Bonjour Stéphane.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'accompagner ce redémarrage, ce nouveau départ pour Radio Patrimoine, ici au cœur de cette convention Anacofi. Vous êtes stratégiste et responsable de l'innovation de Shine Capital. Alors, on a ouvert tout à l'heure en parlant de ce marché immobilier, en parlant des SCPI. Aujourd'hui, on change du tout au tout avec vous. On va s'intéresser un petit peu au marché action, à cette classe d'actifs quand même qui est drôlement essentielle et drôlement intéressante pour qui recherche éventuellement un petit peu de performance. Et aujourd'hui, difficile de passer à côté de ce marché parisien qui fait... rêver tout le monde, voilà. On a longtemps attendu de reconquérir le record des 6944 qui avait si longtemps tenu. Et maintenant, on a l'impression qu'on se fait plaisir en battant quasiment record sur record. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce marché, Stéphane ?
Il faut en penser que c'est un marché qui est en train de se normaliser, tout simplement. C'est-à-dire que, vous l'avez justement dit, Cédric, hein, le marché d'action a vocation d'apporter un surcroît de performance. Et c'est vrai que il le démontre hein, depuis le début de l'année, puisqu'on a des performances sur les indices européens qui tutoient les 10% en plus ou moins. En fait, la normalisation, elle vient tout simplement du fait qu'on sort d'une période extrêmement compliquée, dans laquelle les marchés financiers, très globalement, ont été dominés par un sentiment de manque de visibilité. Et cette visibilité est brutalement revenue à l'automne dernier. En fait, qu'est-ce qui justifie cette hausse ? Cette hausse, elle vient tout simplement du fait qu'on est à la croisée vertueuse de deux inflexions favorables des cycles. Du cycle de croissance, très clairement, et ça on le voit au travers de nos indicateurs de momentum économique. On va faire un exercice à 0,5 de croissance. L'an prochain, en 2025, on attend 1,4, ce qui est un très très bon niveau en Europe. Et on sait que le marché action a un an d'avance sur l'économie réelle. Il ne faudra pas attendre que cela arrive. Et on est complètement dans ce cadre. Par ailleurs, la deuxième inflexion vertueuse, c'est celle du cycle monétaire. La BCE va baisser ses taux en juin. On a aujourd'hui une inflation en Europe qui est désormais plus très très loin de la cible BCE, qui a une trajectoire baissière. On est à 2,6. On a des prix à la production, c'est-à-dire le coût pour l'industriel de produire, qui sont à moins de 9% sur une base annuelle en Europe. Donc très clairement, il n'y a aucune raison que Mme Lagarde maintienne ses taux à 4%. Et tout ça, dans un contexte où les valorisations étaient, alors à l'automne dernier, extrêmement, je dirais, bon marché, mais elles le restent encore.
Donc, il n'y a pas, puisqu'on parlait d'histoire et du précédent grand record, le précédent grand record, c'était sous Alan Greenspan, et il avait parlé de l'exubérance irrationnelle des marchés. Aujourd'hui, quand on voit le CAC s'affranchir de nouveaux records, il n'y a pas d'exubérance irrationnelle sur le marché.
Non, l'exubérance irrationnelle, elle était rationnellement mentionnée par M. Greenspan. Parce qu'à l'époque, on était véritablement sur une bulle spéculative, les boîtes ne gagnaient pas d'argent. Aujourd'hui, quand on regarde alors la situation des deux côtés de l'Atlantique, on n'est plus du tout dans ce cadre. Le marché est objectivement, je dirais, tiré par le haut par des grands leaders. Ouais. Si on regarde en Europe, par exemple, quels sont les grands leaders, ce sont des boîtes qui gagnent de l'argent. Ce sont par ailleurs des sociétés qui appartiennent à des secteurs très différents les uns des autres. Le plus grand acteur européen, c'est Novo Nordisk, une valeur pharma. Ouais. On va retrouver le luxe, des valeurs technologiques avec les semi-conducteurs. Donc on est véritablement sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus partagé, de beaucoup plus diffus. Quant aux États-Unis, une boîte comme Nvidia, dont on parle beaucoup...
Est-ce que là, il n'y a pas d'exubérance irrationnelle quand même quand on regarde le profil de cette
courbe ? D'un point de vue fondamental, non.
Non.
C'est-à-dire que c'est une société qui, paradoxalement, se paye moins cher qu'il y a 3 ans. Ce qui est logique. Hein. Évidemment, le potentiel de croissance aujourd'hui de cette boîte, cette société, est évidemment moindre qu'il n'était il y a 3 ans. Mais ce sont quand même des fondamentaux assez sains. On regarde le marché sous l'angle des valorisations, il n'y a absolument aucun sujet aujourd'hui.
Il faut quand même titiller peut-être un petit peu Stéphane Lévy. Aujourd'hui, les investisseurs, les épargnants, ils se disent, bon, mes actions ont monté. Elles sont très hautes. On me dit que ça va se normaliser, que tout va bien se passer, etc. Donc, je ne vends pas. J'ai raison de ne pas vendre. Il faudrait que je vende parce que je suis déjà haut. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on gère finalement sa ligne action dans son patrimoine avec un marché quand même qui a pris des. Ce ne sont pas des professionnels. Vous voyez ce que je veux dire, Stéphane?
Complètement.
Qu'est-ce qu'on peut dire à l'épargnant aujourd'hui qui peut-être s'est offert du Nvidia, qui peut-être était un fanat de jeux vidéo, puisque on rappelle qu'au départ, c'est quand même juste un éditeur de cartes graphiques. Donc
complètement. Vous l'avez également dit. En fait, on est en train de battre des records qui sont vieux de 20 ans. Donc on n'est pas si haut que ça.
Oui.
C'est-à-dire que...
C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur notre cas qui quelqu'un sans dividendes, sans...
Voilà. Quelqu'un qui a investi, par exemple, en mars 2020, en plein cœur de la crise de la Covid... a fait une performance stratosphérique. Mais quelqu'un qui a investi en 2000, ouais, en 25 ans, n'a quasiment gagné que les dividendes. Donc non, les marchés ne sont pas trop hauts. Il est, à notre sens, encore trop tôt pour vendre. En revanche, il est probablement le temps, pour ceux qui sont, je dirais, assez agiles et qui ont cette capacité de faire des arbitrages, de jouer le rattrapage sur certains segments très très en retard de la côte européenne. On a tendance à parler des records battus par les indices. On ouais, oublie que de nombreux segments de marché...
Il n'y a pas que nos super vedettes.
Non, il n'y a pas que des super vedettes. Et d'ailleurs, je dirais que les starlets, qui étaient les small et mid-cap, les petites et moyennes valeurs, sont encore aujourd'hui 20% en dessous de leur sommet de septembre 2021.
Et donc aujourd'hui, il y a des raisons, des arguments sonnants, j'ai envie de dire, et trébuchants, pour dire à un épargnant, ouvre la cote, regarde un petit peu, sors des fabulous, et va donc regarder un petit peu ce qui se passe sur des boîtes qui sont bien souvent des leaders mondiaux. Enfin, je veux dire, on a des pépites dans notre cote parisienne, et je ne parle même pas des autres cotes mondiales en termes de mid and small.
Bien sûr, on a un tissu industriel en Europe qui reste très très intéressant, qui est au niveau mondial, qui a des avantages compétitifs assez significatif. Si par ailleurs Madame Lagarde devait baisser les taux plutôt que Monsieur Powell aux États-Unis, ça pourrait aussi être assez intéressant via la baisse de l'euro et donc les valeurs exportatrices. Donc aujourd'hui, il y a un relais à prendre. Très clairement, je vais vous dire le fond de ma pensée. Les deux tiers, voire les trois quarts de notre objectif de début d'année, qui était 12% sur les actions européennes, pardon, a été réalisé. Donc il faut être raisonnable, les arbres ne montent pas au ciel, et en tout cas pas en ligne droite. Donc nous, on s'attend plutôt à une phase un petit peu plus neutre directionnellement, mais dans laquelle il y aura beaucoup de valeurs relatives à créer, notamment au travers de ces segments très en retard.
Alors, mais c'est pas juste du momentum parce que des taux, parce que ceci, parce que cela. Il y a du fondamental dans ces mid and small qui ont de quoi justifier l'intérêt qu'on leur porte.
Aujourd'hui, le segment des small et mid en Europe se paye moins cher que les indices, que les grands indices, donc les indices large cap. C'est une situation rarissime. En général, les indices petite et moyenne valeur se payent avec une prime de 1 point à 1,5 point de PE. Donc aujourd'hui, l'indice small et mid cap européen, ça se paye 13 fois les multiples de bénéfices. La moyenne tutoie, la moyenne historique depuis 2000, c'est proche de 15. Donc on est encore sur une sous-valorisation de 15% sur ce segment.
Une fois qu'on s'est dit tout ça, comment est-ce que vous gérez, vous, quelles sont un peu les perspectives, justement? On a fait ce tour de l'environnement dans lequel on évolue. Chez Shane Capital, comment est-ce que on travaille sa stratégie, justement, pour saisir ces opportunités que vous nous tendez ce matin?
Alors, Shane Capital, c'est un acteur très différent, je dirais, dans l'offre de gestion active qui est proposée aux investisseurs. On est des gérants actions à dominante européenne, même si nous avons un fonds américain. Et nous gérons depuis 25 ans nos fonds sous un mode quantitatif, algorithmique, systématique, basé sur une approche momentum, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les titres en fonction de leur dynamique boursière ou de leur dynamique de révision des perspectives bénéficiaires. C'est une approche extrêmement efficiente, hein, puisqu'on a un des meilleurs track records européens sur 20 ans. Et très clairement, nous, le momentum, c'est quelque chose auquel on croit, parce que le momentum, en fait, c'est, dans le stock picking, la capacité à s'adapter à des environnements de marché qui évoluent. Le momentum est auto-adaptatif. Par ailleurs, il est évidemment déployé sous un mode quantitatif, ce qui nous permet, et ça c'est très différenciant, de revisiter chaque mois le cas d'investissement de 1500 valeurs investissables. D'accord. Elle est là, notre force. Et le momentum a vocation à aller chercher de la valeur extrême, des dossiers qui vont surperformer de manière extraordinaire, au sens littéral du terme, les indices à la fin de l'année. Par ailleurs, on associe à cette approche momentum de stock picking une façon de construire nos portefeuilles. Et ça, c'est quelque chose que nous avons récemment mis en place. C'est la conséquence de nos travaux de recherche. Une construction de portefeuille qui tienne compte de la position de l'économie dans son cycle.
D'accord.
On modélise le cycle économique. Et très simplement, ce que l'on va faire, c'est que nous qui avons vocation à investir sur des univers très larges, on va dans des environnements, je dirais, de contraction, des environnements jugés contracycliques au sens de nos indicateurs, nuancer, réduire le poids consacré au segment des small et mid-cap qui ne dépassera pas 25% dans un tel cadre. À l'inverse, dans des environnements jugés expansifs, à l'instar de la période actuelle, on est dans un tel cadre depuis plus d'un an selon nos indicateurs, on n'hésitera pas à aller D'accord. chercher de la valeur dans le segment des small et mid-cap qui peuvent atteindre, c'est le cas aujourd'hui, 45% du portefeuille.
Eh bien voilà un petit survol hein, de ces questions-là, du marché, de ce volet action qui doit bien évidemment prendre sa place aussi. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur Radio Patrimoine, Stéphane Lévy.
Merci Cédric. Je suis particulièrement fier d'être un des premiers. le deuxième, un des premiers, donc je suis sur le podium.
Exactement.
Et je vous souhaite, Cédric, évidemment. Une carrière aussi réussite que dans votre précédente maison, et j'en doute pas une seconde.
Merci beaucoup de votre fidélité. Stéphane Lévy, donc, Shine Capital, ce matin au cœur de cette convention Anacofi, qu'on suit tout au long de la journée. N'hésitez pas à rester avec nous pour continuer à vivre au rythme de cette convention 20 ans et après. Bah tiens, cette question, on la posera dans quelques minutes à David Charlet, c'est le patron de l'Anacofi, et il sera sur Radio Patrimoine. À tout de suite.
La convention annuelle Anacofi, jeudi 28 mars 2024, au Carrousel du Louvre, sur Radio Patrimoine.